VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous, Morgane Guiriec au micro, dans quelques instants Sahel+, présenté par Claire Morin-Gibourg. Mais d'abord, je vous propose un tour d'horizon de l'actualité. Au Burundi, l'opposition menace de claquer la porte des négociations à 3 jours de la présidentielle. Elle accuse le pouvoir de ne pas vouloir discuter, alors que la présidentielle reste maintenue pour mardi prochain. Eddy Sango nous en dit plus.
L'ambiance était tendue aujourd'hui au 3e jour des discussions. La réunion a commencé avec 3 heures de retard. Certains responsables de l'opposition agitaient la menace de la chaise vide après que le gouvernement a réaffirmé jeudi soir que l'élection présidentielle se déroulera comme prévu mardi. Si le gouvernement persiste dans cette voie, on peut se demander pourquoi négocier, s'est indigné vendredi Charles Nditije, une des figures de l'opposition unanime à refuser la tenue des élections à cette date. L'ancien président Donatien Ndayizeye tient, lui, à poursuivre les discussions, mais estime que l'élection présidentielle pourra être annulée ou ne pas être reconnue. Le gouvernement burundais a reporté au 21 juillet l'élection présidentielle en vue de permettre au président Yoweri Museveni de mener la médiation à la demande de la communauté est-africaine. De nouveaux combats ont été signalés dans le nord du Burundi jeudi soir. Une semaine plus tôt, d'autres combats avaient eu lieu dans la même région. Selon le gouvernement, plus de 270 rebelles ont été arrêtés la semaine dernière.
Et le président ougandais, Yoweri Museveni, qui reproche au casque bleu de la MONUSCO d'avoir échoué à désarmer les forces démocratiques alliées, rebelles musulmans ougandais actifs dans l'est de la République démocratique du Congo. Le chef d'État ougandais estime donc que son armée devrait être autorisée à intervenir. Fin du dialogue national en République du Congo. Une tendance est favorable à la tenue d'un référendum sur une nouvelle constitution. Retrouvez-nous dans Le Monde aujourd'hui. Plus de détails en seconde partie d'émission avec notre correspondante Gwélane Goussou. Nouveaux attentats au Nigeria. 3 mineurs se sont fait exploser ce matin à Damaturu, la capitale de l'état de Yobe, dans le nord-est du Nigeria. Bilan, 13 morts parmi les fidèles qui s'apprêtaient à célébrer la fin du Ramadan. Hier, 2 attaques à Gombe avaient fait plus d'une trentaine de victimes. On fait le point avec Salwa Jafari.
Ce qui devait être un jour de célébration s'est transformé en l'espace de quelques secondes, en un jour de deuil, un bain de sang. Les coupables, des enfants, selon les autorités locales. Une première explosion a eu lieu à proximité du terrain de prière de Eid al-Fitr, 500 mètres de là, une seconde. Puis une troisième. Des corps déchiquetés, des vêtements maculés de sang. Les secours arrivent aussitôt. Le bilan est lourd. 13 morts, plusieurs blessés. Les attaques n'ont pas été revendiquées, mais le mode d'opération porte la marque macabre de Boko Haram. Le groupe islamiste a eu souvent recours à des jeunes filles pour commettre des attentats suicides ces derniers mois. Le président nigérian Muhammadu Buhari, qui a mis un point d'honneur à lutter contre les insurgés islamistes, fait face à une vague de violence depuis sa prise de fonction le 29 mai. Plus de 700 personnes ont péri au Nigeria en un mois et demi.
Le président tchadien Idriss Déby Itno a promis aujourd'hui qu'il ne reculerait jamais devant les islamistes nigérians de Boko Haram dans une première réaction à l'attentat suicide qui a fait au moins 15 morts le 11 juillet au marché central de N'Djamena. Jean-Roger Billon.
Nous ne reculerons jamais devant Boko Haram, a assuré le chef de l'État tchadien qui a engagé son armée dans la guerre contre les islamistes nigérians dans un message à l'occasion des festivités marquant la fin du mois du jeûne de Ramadan. Dans la foulée pour renforcer la sécurité, le gouvernement avait interdit sur tout le territoire le port du voile islamique intégral régulièrement utilisé par Boko Haram pour dissimuler des explosifs lors d'attentats suicides. Et ce vendredi même, 19 islamistes ont été tués lors d'une attaque de Boko Haram contre une position de l'armée sur les rives du lac Tchad. Un soldat tchadien a perdu la vie lors des combats. Confronté également aux attaques des islamistes, le Cameroun a aussi interdit le port du voile intégral dans la région de l'extrême nord, frontalière des fiefs nigériens des islamistes et du Tchad. Face à la recrudescence des attentats en Afrique centrale, le Gabon, jusque-là épargné par les violences, a également décidé mardi d'intensifier les contrôles des femmes portant le voile.
En Somalie, le chef des islamistes Shabab appelle les musulmans de toute l'Afrique de l'Est à s'engager à leur côté. Nos camps d'entraînement et nos maisons sont ouverts pour vous accueillir, a lancé Ahmed Diriyé, à l'intention des musulmans d'Éthiopie, d'Ouganda et de Djibouti. Barack Obama ne rendra pas visite à sa famille lors de son séjour au Kenya. Les autorités américaines indiquent que le président américain ne pourra pas se rendre dans le village de Kogelo, où est enterré son père. Attendu à Nairobi dans une semaine, il restera donc dans la capitale.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Dans le reste du monde, l'Union européenne accorde un prêt d'urgence de 7 milliards d'euros à la Grèce pour lui permettre de rembourser une échéance de 4,2 milliards d'euros à la Banque centrale européenne. Annonce du commissaire européen chargé de l'euro, Vladis Dombrovskis, après le vote par le Parlement grec, mercredi, d'un premier volet des réformes réclamées par les créanciers et le feu vert donné ce vendredi par le Bundestag allemand, le président de la zone euro, Jeroen Dijsselbloem, s'est félicité que les conditions requises pour l'ouverture de négociations soient remplies. En Italie, des habitants de deux localités se sont opposés ce vendredi à la police, où ont mis le feu à des matelas pour tenter d'empêcher l'arrivée de quelques dizaines de migrants. Le Haut Commissariat aux réfugiés a exprimé son indignation. L'Italie, il faut le dire, héberge plus de 80 000 migrants ayant traversé la Méditerranée, beaucoup d'Africains, notamment des Érythréens et des Syriens. Le tireur ayant tué 4 militaires avant d'être abattu hier n'était pas considéré auparavant comme une menace par les autorités. C'est ce qu'a déclaré ce matin le maire de Chattanooga dans le Tennessee, Nathalie Barge.
Le maire Andy Becky a déclaré ce matin sur CNN que l'auteur de la fusillade n'était pas suivi par les autorités comme un danger potentiel pour la sécurité nationale. Le FBI l'a identifié comme étant Mohamed Youssouf Abdulaziz, un jeune de 24 ans qui vivait à Hickson, une banlieue de cette ville du Tennessee. Cet Américain, originaire du Koweït, a tiré sur un centre des Marines, blessant un militaire avant de parcourir 10 km jusqu'à un autre bâtiment de l'armée où il a encore ouvert le feu, tuant 4 Marines. Les autorités ont évoqué la fusillade comme un possible acte de terrorisme. L'agent spécial du FBI, Ed Reinhold, a dit hier soir que jusqu'ici, rien n'indiquait un quelconque lien avec des terroristes internationaux et que l'issue de l'enquête permettra de connaître le motif du tireur. Le Centre américain de surveillance des sites islamistes signale qu'Abdulaziz a écrit sur un blog que la vie est courte et amère, ajoutant que les musulmans ne devraient pas manquer l'occasion de se soumettre à Allah. Le New York Times rapporte que son père était sous investigation depuis plusieurs années pour des liens possibles avec une organisation terroriste étrangère.
Violente manifestation au Caire, la capitale égyptienne. Au moins 6 personnes ont été tuées dans des heurts opposant des partisans des frères musulmans, fidèles à l'ex-président Mohamed Morsi, et la police. L'incident est survenu lors d'une marche des islamistes après la prière. Et des violences ont été également signalées dans d'autres parties du pays, notamment dans la ville de Naya. Lapidation au Maroc. Deux hommes accusés de vol ont été roués de coups par la foule hier dans un souk proche de Midelt, petite ville au centre du pays. L'un d'eux, âgé d'une cinquantaine d'années, est mort, indiquent les médias locaux. Et le Premier ministre yéménite en exil à Riyad a annoncé ce vendredi la libération de la province d'Aden dans le sud du pays. Mais la situation semblait toujours instable puisque des combats se poursuivaient dans plusieurs quartiers de la grande ville portuaire du sud, selon des témoins. Depuis 4 mois, le Yémen est le théâtre d'un conflit dévastateur opposant d'un côté les forces gouvernementales et leurs alliés et de l'autre les rebelles chiites houthis appuyés par des soldats restés fidèles à l'ex-président Ali Abdallah Saleh. Voilà pour ce bulletin d'information. Au micro, Morgane Guiriec. Je cède la place à Claire Morin-Gibourg dans Sahel Plus.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.